Vous êtes sur RTL.
Et demi. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 7 janvier, game over. Cette fois c'est fait. Le Congrès a enfin certifié l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche après des scènes de chaos au Capitole. Donald Trump a dû admettre que son mandat était fini et il a promis une transition ordonnée le 20 janvier. Nous reviendrons largement sur cette page d'histoire qui s'est écrite hier soir au Capitole avec les pro-Trump. Ce jour où la plus grande démocratie du monde a tremblé. Y aura-t-il de nouveaux couvre-feux dans certains départements? Jean Castex tient une conférence de presse tout à l'heure à 18h. Pour faire le point sur l'épidémie, nous serons avec Guillaume Rosier de Covid Tracker qui traite toutes les données sur le virus. Les grossistes en boissons dont l'activité est en chute libre ont mené une opération escargot ce matin à Lille. Ils réclament les mêmes aides que les restaurateurs. Dans RTL Midi aussi, l'agacement de l'avocat de Cédric Jubillard dont la femme a disparu il y a 3 semaines dans le Tarn. Il en a assez du parallèle qui est fait avec l'affaire Daval. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera aujourd'hui à Douai, dans les traces de pattes d'un petit chien. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Une belle lumière d'hiver dans le sud.
Oui, entre l'Aquitaine et les Alpes, là le ciel, alors il se voit légèrement, mais franchement ça reste très agréable comme ce matin. Plus au sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, là ça se couvre au fil des heures. On aura un ciel bien chargé. Au nord de la grisaille également, sur la partie est, là ça ne bouge pas, avec quelques flocons, pluie et neige mêlés localement. Et puis sur le nord-ouest, alors on a quelques gouttes encore sur les côtes de la Manche, mais le retour d'éclaircies et sur le reste du nord-ouest, un dégradé nuageux avec quelques trouées possibles. Les températures, elles restent froides, globalement comprises entre 1 et 6 degrés et jusqu'à 11 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. Donald Trump a-t-il mis la démocratie américaine en danger? Vous êtes 73% à dire oui, il y a 22% de non. On attend vos analyses, vos témoignages, vos décryptages au 3210.
Bonjour, bonjour Pascal Christelle, Pro. C'est inimaginable à Washington. L'Amérique est sous le choc, vous pourrez évidemment réagir au 32-10, avec également en corollaire, est-ce que vous pensez que ce type de scène peut se produire un jour en France? Un troisième confinement est-il inévitable? Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a averti. On attend ce soir les déclarations de Jean Castex et puis acteur, musicien, directeur de théâtre, 200 personnalités du monde de la culture lancent aujourd'hui un appel en faveur de la vaccination. Est-ce que vous êtes sensible à ce type d'injonction? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Joe Biden va bien devenir le 46e président des États-Unis le 20 janvier. Son élection a finalement été certifiée. Donald Trump a dû finir par admettre dans un communiqué qu'il y aurait une transition ordonnée le 20 janvier. Mais quelle hystérie avant d'en arriver là. L'envahissement du Capitole hier soir par des partisans chauffés à blanc par le président. Personne avait des allures d'insurrection, voire de coup d'État. Le couvre-feu a dû être décrété à Washington. Et ce qui devait n'être qu'une simple formalité au Congrès a eu lieu finalement plusieurs heures plus tard, c'est-à-dire la validation de l'élection de Joe Biden, Christophe Decroix.
Oui, après le baroudonneur, enfin d'honneur d'hier soir, la tension est retombée. Le Congrès a pu reprendre sa session. Mike Pence, le vice-président à qui Trump avait demandé de tout faire pour empêcher la validation de l'élection, a refusé de suivre son patron. Il a bu la coupe jusqu'à la lie et comme le prévoient les textes, c'est lui, Mike Pence, qui a annoncé la victoire du démocrate.
Les résultats de l'élection présidentielle américaine sont les suivants. Joseph Biden Jr. de l'État du Delaware a obtenu 306 voix. Donald Trump de l'État de Floride a obtenu 232 voix.
C'était le dernier clou dans le cercueil présidentiel de Trump. Une fois cette certification du Congrès actée, Donald Trump a admis que sa présidence touchait à sa fin et promis une transition ordonnée le 20 janvier, date à laquelle Joe Biden prêtera serment. Mais il y a un mais. Trump continue de dire qu'il est en complet désaccord avec le résultat de l'élection. Il affirme contre toute évidence que les faits le soutiennent. Ce n'est, conclut-il, que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Bref, on ne peut pas assurer qu'il a baissé les armes.
À Christophe Decroix, plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont partis à l'assaut du Capitole, hier considéré comme le temple de la démocratie aux États-Unis. Une femme a été tuée par un tir de la police. 3 autres personnes ont perdu la vie un peu plus loin dans le secteur de la colline du Capitole. Et la sécurisation du bâtiment est mise en cause, évidemment, d'autant que Donald Trump avait lancé un appel à manifester depuis longtemps, Lionel Gendron.
Oui, et certains vont se retrouver au chômage, c'est ce qu'a dit un parlementaire dès hier. La police du Capitole en charge de sécuriser le bâtiment, c'est tout de même 2000 personnes, et elle n'a pas su protéger cette institution. Après, les manifestants, on les a quand même laissés arriver jusqu'au bâtiment, jusqu'au Capitole, et ça, c'est la police de la ville qui était chargée de s'en occuper. Parmi les questions aussi, y a-t-il eu des complicités réelles, ou on va dire par sympathie philosophique, des policiers qui auraient laissé un peu les manifestants agir. La stratégie aussi, le plan de sécurisation, il avait été validé par les autorités, par les officiels, avec notamment un millier de gardes nationaux également. Et cette opération était jugée satisfaisante, notamment parce que l'extrême gauche n'était pas censée venir à Washington. Et puis en face, c'était des partisans du commandant en chef de Donald Trump. Et c'était compliqué à gérer. Ça n'a sans doute pas facilité la stratégie et la communication entre les services.
Lionel Gendron en direct de Washington pour RTL. Et certaines images marqueront l'histoire. Des élus portant des masques à gaz, des agents de la police en civil, armes au poing, un manifestant les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Alors, il y avait des militants irréductibles de Donald Trump venus de tout le pays, mais Sinamir, le profil de ceux qui étaient en première ligne était quand même assez particulier.
Oui, sur la photo à l'entrée du Capitole, on retrouve déjà cet homme torse nu, coiffé d'une tête à cornes, le visage peinturluré façon peau rouge et son drapeau américain à la main, pas du tout un anonyme. Jake Angeli, 32 ans, parade habituellement avec ses tatouages suprémacistes et ses cornes dans les rassemblements d'extrême droite ou de soutien à Donald Trump. Il est connu sous le nom de Q Shaman, une figure du mouvement conspirationniste QAnon. On change de photo dans l'aile sud du Congrès, vous en avez parlé, les pieds sur la table du bureau de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. On retrouve Richard Bigot Barnett, 60 ans, le retraité bombe fièrement le torse et ouvre sa chemise devant les caméras à la sortie du Capitole. Il est originaire de l'Arkansas, à 1500 km de là. C'est un militant pro-arme à feu et lui aussi complotiste. La victime, la femme tuée par un tir de police dont vous parliez également, a été identifiée. Ashley Babbitt, 35 ans, ancienne militaire. Il y en a beaucoup chez les pro-Trump. Elle habite à San Diego, à 4000 km de là. Sa mère ne comprend toujours pas pourquoi elle est allée à ce rassemblement. Son mari, lui, n'a pas voulu faire le voyage. Il y avait évidemment beaucoup d'autres profils d'anonymes plus bas sur les marches du Capitole, mais la première ligne était à coup sûr d'extrême droite.
Et ils sont venus de tout le pays, comme vous l'avez souligné. Merci Sina. Les anciens présidents américains se sont insurgés. Barack Obama a dénoncé un moment de déshonneur et de honte pour l'Amérique. George W. Bush, des scènes de chaos dignes d'une république bananière. Alors pour aller plus loin, Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'Institut français des relations internationales, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez eu peur pour la démocratie américaine cette nuit ?
C'est sûr, les images qu'on a vues hier étaient quand même impressionnantes et dans ces moments-là, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. En l'occurrence, d'ailleurs, il y a eu 4 morts, vous l'avez dit, donc c'est quand même pas rien. Même si sur les 3 qui n'étaient pas autres que cette jeune femme dont on vient de parler, il y avait sans doute des facteurs de comorbidité. Mais quand même, c'est assez grave, le symbole est assez grave, le fait que ce soit le président Trump lui-même qui est appelé lors de la manifestation du matin. Hier matin, il y avait une manifestation qu'il avait appelée et dans laquelle il a pris la parole pour dénoncer les fraudes, entre guillemets, de l'élection. Donc tout cela avait été vraiment provoqué par les propos du président. Donc tout ça est extrêmement grave. Et en même temps, ça s'est calmé lorsque la police, la garde nationale, a repris le contrôle du bâtiment. Donc une peur passagère. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui va se passer ?
On dit finalement, l'élection de Joe Biden a bien été certifiée, même avec plusieurs heures de retard. Mais tout de même, pour autant, est-ce qu'on peut dire que tout est rentré dans l'ordre ?
Écoutez, moi j'ai ce matin, alors sous réserve de ce qui va se passer, plutôt envie d'être optimiste, parce que justement les événements d'hier et leur symbolique très lourde appellent les républicains à choisir leur camp. D'une certaine manière, les républicains on leur demande de choisir leur camp par rapport à la démocratie, par rapport aux outrances de Trump depuis 4 ans. Mais là, avec ce qui s'est passé hier, si vous voulez, on a passé un cran supplémentaire et la preuve en est que 2 des lieutenants principaux de Trump depuis 4 ans ont choisi de dire qu'il fallait revenir au calme, reconnaître l'élection, reconnaître la victoire de Biden. Ces 2 lieutenants, ce sont Mike Pence, donc le vice-président qui a certifié l'élection, et c'était pas évident, mais il l'a fait, donc ça c'est bien. Et le second, c'est Mitch McConnell. Mitch McConnell, qui est l'un des plus grands facilitateurs de Trump ces 4 dernières années, c'est le chef des Républicains au Sénat, un personnage institutionnellement extrêmement important. Et bien lui aussi, aussi hier a pris, a, si vous voulez, il a franchi le Rubicon et après des années de soutien de Trump, a dit non, maintenant il faut arrêter, Trump a perdu, il faut reconnaître la démocratie.
Ils l'ont lâché, mais pensez-vous qu'après cet épisode, beaucoup d'électeurs vont se détourner de lui ?
Alors, il y aura cette base populiste du président Trump qui va certainement mettre beaucoup de temps à accepter la défaite de leur champion, en quelque sorte. Mais c'est là, à mon avis, que tout se joue dans les mains de Biden, parce que la politique que va mener Biden dans les années qui viennent, avec son plan de relance Build Back Better, eh bien, elle s'adresse, elle veut s'adresser à toute l'Amérique, y compris cette base électorale de Trump qui, on le sait, est formée en grande partie de ce qu'on appellerait la classe ouvrière américaine, la classe ouvrière blanche, qui est juste un peu trop riche pour toucher les aides sociales. Ça, c'est les minorités les plus pauvres du pays qui y ont droit, parce qu'ils sont vraiment en dessous de la ligne de pauvreté. Et cette classe moyenne, classe ouvrière blanche, elle se sent trahie depuis des années. Si Biden arrive à lui redonner confiance, à la faire sortir de son sentiment d'être méprisé par les élites, ça pourrait changer la donne politiquement dans les années qui viennent.
Venons-en à Donald Trump, parce que les mots qu'il a utilisés dans son dernier communiqué sont très choisis. Le mot « défaite » n'y figure pas, il a toujours dit que de toute façon, il ne le prononcerait pas. Il explique « Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me soutiennent », il y aura une transition ordonnée le 20 janvier. Comment vous l'interprétez, ça ?
Eh bien, c'est très contradictoire, ce message. Hein. Il dit d'un
ça
côté...
Veut dire qu'il, on a l'impression qu'il lâche rien, quand même, d'une certaine manière.
Non, il ne lâche rien, parce que sa psychologie... Alors, je remets pas en cause le fait qu'il était élu par des gens qui croyaient en lui, qui en avaient marre, etc. Okay. Mais lui, personnellement, a une psychologie quand même hors norme. Et je veux pointer là un défaut narcissique de ce président qui ne peut pas psychologiquement, si vous voulez, reconnaître sa défaite. Il est dans le déni depuis le 3 novembre, il l'est encore aujourd'hui, mais enfin bon, il a quand même le dos au mur, donc il dit alors il veut pas non plus qu'il y ait trop de désordre, sans doute, il ne veut pas qu'il y ait un coup d'État, par exemple. On lui fait crédit de ça. Et du coup, il a ce discours totalement contradictoire qui est OK pour la transition pacifique, mais quand même, je ne veux pas reconnaître sur le fond ma défaite.
Et il ajoute, ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Ça veut dire qu'il leur donne rendez-vous dans 4 ans.
Sans doute. On va voir.
Mais durant les 4 prochaines années, là, après ce qui vient de se passer, il va pouvoir continuer à exister ?
Ben, il a levé énormément d'argent depuis le 3 novembre pour financer d'éventuelles futures campagnes. On va voir. Oui, je pense qu'il peut empoisonner l'atmosphère politique dans les années qui viennent, très certainement.
Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci Laurence Nardon d'avoir été l'invitée de ce journal. Face à ces images sidérantes, Angela Merkel s'est dite triste et en colère, regrettant que Donald Trump n'ait pas concédé sa défaite. Londres a dénoncé des scènes honteuses. Emmanuel Macron lui a appelé, je cite, à ne rien céder à la violence de quelques-uns contre les démocraties. Et on a eu le sentiment, Marie-Bénédicte Allaire, qu'il avait encore en mémoire les moments les plus tendus qu'il a traversés avec la crise des Gilets jaunes.
Bien oui, car comme l'explique un haut gradé d'En Marche, il ne faut pas être naïf, les États-Unis ne sont pas un îlot populiste dans un monde progressiste. Et au sommet de l'État, on se souvient qu'il y a 2 ans, on n'était pas loin en France de ce qui s'est passé à Washington. Au plus fort des manifestations des Gilets jaunes, quand le portail du porte-parole du gouvernement est enfoncé. Ou quand la préfecture du Puy-en-Velay est incendiée et la voiture d'Emmanuel Macron poursuivie par des manifestants. La grande différence avec les États-Unis, se félicite ce parlementaire En Marche, c'est que là-bas, les émeutiers se sont trouvés un leader avec Donald Trump, alors qu'en France, même s'il y a eu des tentatives de récupération des colères, personne ne pousse les tendances insurrectionnelles. Marine Le Pen s'est dite très choquée par la violence ce matin. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a dénoncé une tentative de coup d'État d'extrême droite.
Merci. À l'étranger, la Russie, la Chine et l'Iran ont profité de cet épisode pour souligner la fragilité de la démocratie américaine. Dans un instant, le reste de l'actualité, on va faire le point sur l'état de l'épidémie de Covid dans notre pays.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Y aura-t-il de nouveaux couvre-feux dans certains départements? Quid de la restauration, des stations de ski, des lieux culturels? Jean Castex doit donner à 18h plus de visibilité au secteur touché par la crise sanitaire et prendre certaines mesures de restriction. En tout cas, la communication du gouvernement est plus verrouillée que jamais, Jacques Serret.
Oui, car Emmanuel Macron ne veut plus de louper de communication, en particulier sur le vaccin, alors que la mise en place de la stratégie vaccinale concentre toutes les critiques contre l'exécutif. Conséquence désormais, en dehors de Jean Castex seul, trois ministres sont habilités à s'exprimer sur la stratégie vaccinale. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie, et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, pour contrer les polémiques. Le gouvernement cherche aussi à délivrer un message positif sur le vaccin. Une réflexion est en cours. Il y a un mois, le Premier ministre expliquait qu'il ne se ferait pas vacciner au début de la campagne pour que cela n'apparaisse pas comme un passe-droit. Et la consigne était de ne pas politiser la vaccination. Changement de pied aujourd'hui. Un ministre s'étonne qu'on ait tant prêté attention aux vaccinosceptiques au lieu d'écouter les soutiens du gouvernement et ceux qui sont prêts à se faire vacciner. À l'exemple du nouveau président américain Joe Biden, Jean Castex ira-t-il jusqu'à se faire vacciner sous l'œil des caméras pour montrer qu'il n'y a rien à redouter? À ce stade, Matignon ne confirme pas.
Jacques Serret, mais quelle est la géographie de l'épidémie en France alors qu'une quinzaine de départements sont déjà en couvre-feu? Faisons le point avec Guillaume Rosier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Covid Tracker, cet instrument informatique qui traite toutes les données dans notre pays sur le virus. Quels sont les départements, les régions les plus touchées en ce moment?
Alors en ce moment, il faut savoir que le virus circule de façon intense sur l'ensemble du territoire, hein, puisque tous les départements dépassent le seuil d'alerte en incidence qui est de 50 cas par semaine pour 100 000 habitants. En tout cas, en métropole, tous les départements dépassent ce seuil d'alerte, sauf un département qui est le Finistère, qui est juste en dessous du seuil d'alerte. Mmh. Et puis, on a environ une trentaine de départements qui dépassent le seuil d'alerte renforcé de 150 cas. Et puis, une dizaine de départements qui dépassent le seuil d'alerte maximal qu'avait défini le gouvernement en septembre dernier, qui est de 250 cas par semaine pour 100 000 habitants. Globalement, le virus circule beaucoup plus sur une moitié est du pays, et notamment dans le nord-est et le sud-est, un tout petit peu moins dans le centre-est. Mais globalement, le virus circule de façon intense sur l'est du pays.
Et comment vous l'expliquez, ça? Pourquoi plutôt l'est?
On n'a pas d'explication. Ça dépend probablement de très nombreux facteurs, parmi lesquels peut-être la météo, les comportements individuels,
le froid.
Et probablement peut-être le froid. Ça fait partie très probablement des facteurs qui influencent l'activité du virus, mais il y a probablement des dizaines d'autres facteurs qu'on ne connaît pas tous encore à l'heure actuelle.
Mmh. Hier, on a enregistré plus de 25 000 nouveaux cas. Y a-t-il un frémissement général qui pourrait être dû à Noël?
Alors, on observe une augmentation du nombre de cas depuis quelques jours, hein, depuis une semaine, 10 jours. Mais il faut faire très attention parce que le nombre de cas détectés a été complètement brouillé par le testing massif juste avant Noël. Hein, juste avant Noël,
ah oui, d'accord.
Beaucoup de personnes se sont fait tester. Ça a fait augmenter le nombre de cas juste avant Noël. Et ensuite, ce nombre de cas, il s'est écroulé juste après Noël puisque les gens ont arrêté de se faire tester. Et donc, depuis, le nombre de cas réaugmente. Mais on ne sait pas encore si c'est un rattrapage de cet écroulement-là ou si c'est une augmentation réelle de l'activité du virus. Si on regarde le taux de positivité qui représente la proportion des tests qui sont positifs, ce taux de positivité, il s'est écroulé donc suite au testing massif, hein, puisque beaucoup de gens se sont fait tester et ces gens-là étaient négatifs, donc le taux de positivité a baissé. Et depuis, le taux de positivité a retrouvé le niveau qu'il avait lors du plateau de la première quinzaine de décembre, mais pour l'instant, il n'est pas monté au-dessus de ce niveau-là, donc les prochains jours vont être déterminants, puisque si le taux de positivité augmente au-dessus du plateau de la première quinzaine de décembre, alors ça voudra dire que les fêtes de fin d'année aurait eu un impact sur la circulation du virus. Mais si par contre ce taux de positivité se stabilise dans les prochains jours au niveau actuel, ça voudra dire que le virus circule de façon intense, mais constante par rapport à la période qui précédait les fêtes de fin d'année.
Et quand est-ce qu'on y verra clair, franchement? Dans une semaine?
Je pense que d'ici quelques jours, on aura une vision un peu plus claire de l'effet des fêtes de fin d'année, mais on pourra donner vraiment une conclusion ferme que dans une semaine, deux semaines, lorsqu'on verra l'impact des fêtes de fin d'année sur les admissions à l'hôpital et en réanimation, puisqu'on sait que ces admissions à l'hôpital ont une dizaine de jours, voire 15 jours de retard sur la circulation du virus. Donc on verra ça d'ici à la mi-janvier, je pense.
Merci, on refera un point avec vous à ce moment-là, Guillaume Rosier, et on note que c'est surtout surtout l'est du pays hein, qui est touché aujourd'hui par l'épidémie. Merci d'avoir fait le point dans RTL Midi. Certains s'impatientent. Ce matin, les grossistes en boissons des Hauts-de-France ont organisé une opération escargot autour de Lille. 4 convois rassemblant une centaine de camions ont convergé vers la métropole. Ils demandent à bénéficier des mêmes aides que leurs clients, les cafés et restaurants. Laurent Pecker, gérant de la société Saudi Boissons de Saint-Omer, manifeste en ce moment.
C'est un sentiment d'avoir été baladé depuis fin octobre, d'être méprisé, puisque le gouvernement est bien au courant de notre situation. Et on a l'impression d'être un peu les dindons de la farce. On n'a pas le droit aux aides, en fait, tout ce qui est fonds de solidarité. Donc ce qu'on demande tout simplement, c'est d'être aligné à minima sur les mêmes aides que nos clients fermés, les cafés et les restaurants. Tous les grossistes de boissons en France ont perdu à peu près 43% de leur chiffre d'affaires en 2020. On va en perdre, à mon avis, autant en 2021. Et on a tous des frais fixes qui sont entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires. Et à titre perso, par exemple, au niveau de Saudi Boissons, on fait 38 millions de chiffre d'affaires. Tous les mois, on perd 400 000 euros de charges qu'on ne peut pas absorber. En face, on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc c'est dramatique. C'est même plus un cri d'alarme. Là, c'est vraiment le SOS, parce qu'on est vraiment au bord du gouffre quand on a l'impression de mourir la bouche ouverte. Ouais.
Le SOS de Laurent Pecker avec Christophe Ponzio. 3 semaines après la disparition de Delphine Jubillard, cette jeune mère de famille près d'Albi, c'est toujours le mystère. Son mari a participé hier aux nouvelles recherches aux côtés des gendarmes. Et l'avocat de ce dernier, Jean-Baptiste Allary, s'énerve contre ceux qui font un parallèle avec une autre affaire du même genre, celle de Jonathan Daval. Patrick Hisson vient de le rencontrer.
Ce parallèle existerait dans n'importe quelle situation semblable. Nous sommes dans l'ère non pas de la réflexion, mais de la réaction. Et à partir du moment où une personne est en couple disparaît, la première des personnes vers laquelle on se tourne, c'est le compagnon, le conjoint. La disparition de Madame Jubillard est un événement tragique et l'enquête va être probablement longue et a pour vocation de déterminer si des responsabilités sont en cause. Il ne s'agit pas aujourd'hui de conclure un dossier d'instruction qui va peut-être durer plusieurs années, même si je ne le souhaite pas, au bout de quelques jours. Il n'y a pas plus de parallèle à faire avec cette affaire Daval qu'avec toute autre affaire de disparition. Il y a en France chaque année des milliers de disparitions non résolues également. Il y a aussi des personnes qui sont soupçonnées et innocentées. Il y a des personnes qui sont poursuivies et innocentées. Il y a aussi des personnes qui ne sont absolument pas en cause avec la disparition d'un proche. Donc non, ce parallèle-là est absolument insupportable.
Propos recueillis par Patrick Hisson. L'international français Karim Benzema est finalement renvoyé en correctionnel dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. C'était en 2015. L'attaquant du Real Madrid est renvoyé pour tentative de chantage. Comme chaque jour dans RTL, le coup de cœur de nos correspondants en région pour une initiative locale, une histoire, une personnalité. Aujourd'hui, nous partons à Douai, dans le Nord, retrouver Franck Hanson. Franck, vous avez été ému par la belle solidarité qu'il y a eu autour d'un chien, Lucky, qui appartenait à un SDF.
Oui, c'est un chien vagabond croisé épagneul bouvier bernois. Lucky, le poil noir et blanc, est devenu la mascotte du faubourg des Kerchins où les habitants lui donnent à manger, des caresses. Il avait même sa niche au pied des immeubles, mais des militants associatifs avaient décidé de le récupérer en estimant qu'il était maltraité. Émotion dans le quartier, Lucky n'est pas du genre à se laisser enfermer. Les habitants se sont donc soudés entre eux et aujourd'hui, ce chien, tout toiletté, a trouvé une nouvelle maîtresse. Karine, éducatrice. Je l'ai d'ailleurs vue ce matin dans son jardin avec Alain Laturel, l'un de ses défenseurs.
Alors Lucky, mon Lucky.
J'ai dit bonjour. On essaye de le remettre un peu sur les rails et de lui redonner une seconde chance. Les animaux, oui, ils ne demandent rien, juste à être aimés.
Son nouveau collier, il y a même une belle médaille. On a fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille et que on ait une fois... pour toute la paix avec les associations. Ceci étant, on s'est débrouillé tout seul.
On va dire qu'il a trouvé sa nouvelle famille. Et il se débrouillait, il côtoyait des gens. L'éloigner de tout ça, c'était peut-être pas une bonne idée.
Lucky, viens voir.
Bonjour, les chiens.
Il est encore un peu coincif.
Alors on a bien tenté, mais Lucky n'a pas voulu aboyer. Hein. Ce que je trouve touchant finalement dans cette histoire, Christelle, c'est que ce chien a aussi créé du lien entre tous ses résidents. Il continue d'ailleurs aujourd'hui de participer aux frais de nourriture avec le soutien d'un vétérinaire.
La belle histoire de Lucky. Merci Franck, qui porte bien son nom. Il a été chanceux sur ce coup-là. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes. Pascal.
L'Amérique, bien sûr, et ça va être intéressant, mais surtout de faire une passerelle avec ce qui se passe en France. Est-ce que, et on l'a vu d'ailleurs avec l'Arc de Triomphe, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est-ce que ça pourrait se produire en France, ce genre de choses ? Et puis, extrapolons, Mais si, par exemple, en 2022, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, ou si Marine Le Pen est élue président de la République, est-ce que des gens en France n'accepteraient pas la démocratie et descendraient dans la rue pour contester l'élection ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens dans les populations occidentales qui contestent, au fond, le régime de la démocratie, qui ne sont jamais contents ? C'est peut-être une manière, effectivement, d'extrapoler, bien sûr, sur ce qu'on a vu hier aux États-Unis. On pourra bien sûr revenir sur ce troisième confinement que certains annoncent inévitable. Ce soir, M. Castex va parler. On tremble, parce que généralement, quand il parle, c'est des restrictions qui arrivent. Et puis, acteur, musicien, directeur de théâtre, 200 personnalités du monde de la culture lancent aujourd'hui un appel en faveur de la vaccination. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de mobilisation ? Est-ce que ça vous rassure, au fond ?
À tout de suite, Pascal. Peggy Broche, les températures stagnent.
Exactement, Castel est donc toujours en dessous des normales. 1 degré à Langres cet après-midi, 3 à Metz et Reims, 4 à Paris, Toulouse, 5 à Rennes, 6 à Bordeaux, comme à Nîmes. Côté ciel, alors c'est très agréable, encore lumineux dans le sud, hein, entre l'Aquitaine et les Alpes, même s'il y a un léger voile. En revanche, plus au sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, là ça se couvre vraiment, tout comme en Corse, c'est très nuageux. Et au nord, sur les côtes de la Manche, on retrouvera quelques éclaircies, ça fera du bien, ce qui n'empêchera pas tout de même une ou deux averses, mais vraiment sur le littoral. Sur le reste de la moitié nord, à l'ouest, c'est bien nuageux, contrairement au jour précédent. On a un petit espoir de voir une ou deux éclaircies, donc ce sera déjà pas mal. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le nord-est, entre le Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté et Île-de-France. La grisaille persiste, quelques flocons, pluie et neige mêlées, surtout sur les frontières du nord. Mais c'est vraiment de manière très localisée.
Des éclaircies, vous nous en promettez pour demain aussi ?
Demain, oui. Après dissipation des brouillards, des grisailles, parce que tout ça, beaucoup le matin, c'est vrai. Mais une fois tout ça dissipé, on retrouvera un ciel plus lumineux globalement sur l'ensemble du pays, avec plus d'éclaircies, des éclaircies plus franches en allant vers le sud, sauf entre les Pyrénées et la Méditerranée où ça restera couvert. Et il restera encore quand même quelques grisailles et quelques flocons qui vont persister uniquement près des frontières du nord, toujours quelques gouttes possibles près des côtes de la Manche avec un ciel un peu plus nuageux. Tout ça sous une ambiance encore bien froide.
Merci. Dans un instant, le rappel des titres et ensuite c'est à vous. Vous prenez la parole sur RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et les images de Trump, évidemment, vous font réagir. Nous sommes avec Thierry. Et si vous nous suivez régulièrement, vous savez que Thierry intervient parce qu'il est chef d'entreprise et il habite Washington. La dernière fois que je l'avais eu, je crois que vous étiez en France d'ailleurs, Thierry.
C'est exact, Pascal. Bonjour à tous.
Bonjour. Là, vous êtes à Washington.
Oui.
Eh bien, vous allez pouvoir nous en parler. Vous venez de vous réveiller.
À peine, oui.
La gueule de bois, peut-être.
Un tout petit peu.
Christelle, le rappel des titres.
Cette fois, les jeux sont faits. L'élection de Joe Biden a bien été certifiée par le Congrès américain avec quelques heures de retard. Après des scènes d'insurrection au Capitole de la part des partisans de Donald Trump, ce dernier a fini par admettre dans un communiqué que son mandat était fini et il a promis une transition ordonnée le 20 janvier. Mais à aucun moment, il ne prononce le mot défaite. Y aura-t-il plus de départements sous couvre-feu face à l'épidémie de Covid ? Jean Castex fera des annonces à 18h en concert avec les élus. La vaccination monte en puissance. Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, va demander au Premier ministre que les personnels des écoles et les enseignants soient considérés comme prioritaires pour la vaccination. État d'urgence décrété à Tokyo face à la montée de l'épidémie, mais pas de confinement total. Ça laisse tout de même beaucoup de points d'interrogation sur la tenue des prochains Jeux Olympiques l'été prochain, dans 197 jours exactement.
Les auditeurs ont la parole.